Exploration, gagner en XP dans le JV.
La semaine dernière, avant ma prise de parole à l'antenne, Léo et Alexandre ont débattu lourdement pour savoir si Final Fantasy VIII était bien ou pas. En effet, les plus attentifs l'auront peut-être remarqué au début de ma précédente chronique, j'ai utilisé la musique Waltz for the Moon, issue de la fameuse scène du bal du jeu de Square. Il n'a pas fallu plus que ça pour que mes deux collègues partent dans une discussion enflammée sur la qualité du titre. Final Fantasy, c'est une saga un peu chaotique. Née des esprits créatifs des japonais de Squaresoft, FF, comme l'appellent les fans, c'est une licence issue d'un baroud d'honneur. Et oui, en 1987, l'entreprise était à deux doigts de la faillite, et ainsi Hironobu Sakaguchi, jeune concepteur de jeux vidéo à l'époque, décide que leur dernière œuvre sera un jeu de rôle dans un univers d'Heroic Fantasy. Bon, l'Heroic Fantasy, nous en Occident, à la fin des années 80, c'est un courant littéraire bien installé et très populaire. A l'époque, cela fait déjà 30 ans que Le Seigneur des Anneaux est sorti et Donjons et Dragons a réussi à trouver ses joueurs et joueuses depuis au moins 10 ans. Cependant, au Japon, la fantasy est beaucoup moins en vogue. Il a fallu que différents codes du genre soient repris par des auteurs japonais et des créateurs et créatrices de jeux vidéo pour que le style rencontre son public. Ainsi, Sakaguchi va également participer à cette démocratisation de l'heroic fantasy nippon à travers ce qu'il pensait être l'ultime ouvrage de Square, une fantasy finale, Final Fantasy. Bon, l'histoire a un peu joué en la défaveur du nom. Cette année doit sortir le 16e jeu numéroté et la licence a aussi eu le droit à de nombreux titres dérivés de son univers comme des compilations, des suites, des préquels, des spin-offs. Bref, Final Fantasy, c'est tout simplement l'une des plus grandes sagas du paysage vidéoludique. Ceci dit, en Occident, il aura fallu un certain temps avant que la saga devienne aussi populaire qu'au Japon. Si de nos jours, chaque FF est plus ou moins reconnu pour ses qualités, en 1997, les joueurs et joueuses ne juraient que par le messie du jeu de rôle japonais, Final Fantasy VII. Évidemment, si je parle de FF, je ne peux pas faire comme si le 7ème épisode numéroté de la série n'existait pas. Sorti sur la première PlayStation, FF7 a marqué une génération. Quittant la fantasy pour une dystopie futuriste, le premier titre de la saga à utiliser des graphismes en 3D ne s'est pas gêné pour traiter d'écologie et d'écoterrorisme dans un jeu vidéo, et ça, des années avant que le réchauffement climatique ne soit pris au sérieux. Avec FF7, Squaresoft va s'inscrire plus sérieusement dans le paysage vidéoludique et va populariser la licence en Occident. Dès lors, chaque Final Fantasy sera accueilli à bras ouverts. Ceci dit, peut-être que vous vous demandez comment le 7ème opus d'une franchise peut changer de style comme ça. Alors c'est très simple. En fait, chaque Final Fantasy numéroté se déroule dans un univers différent. Ainsi, le monde de FF4 n'a rien à voir avec celui du 8, qui n'a rien à voir avec FF10, et encore moins le dernier épisode numéroté de la saga, FF15. En réalité, dans un Final Fantasy, on retrouve des points communs comme des éléments de scénario, par exemple une romance avec une amie d'enfance, des noms, des systèmes de jeu et des espèces animalières, les plus connues étant les chocobos, des gros poulets jaunes qui ont un petit côté attachant, et les mogs, des sortes de petits chats avec des ailes de chauve-souris, à part dans le 12 où ce sont devenus des lapins anthropomorphes. L'histoire d'un Final Fantasy, globalement, c'est un groupe de jeunes héros qui combattent les forces du mal. Ces dernières peuvent prendre des formes variées, une méga-corporation dans le 7, une sorcière dans le 8, ou encore un culte religieux dans le 13. Au fil de leurs aventures, nos protagonistes développent leur personnalité propre et les relations entre eux. D'ailleurs, ces différents points, on les retrouve aussi dans Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit, premier et ultime film d'animation de Squaresoft, qui sera un immense désastre commercial et critique, malgré une qualité d'animation 3D très impressionnante pour l'époque. Hironobu Sakaguchi, qui pour l'occasion a troqué sa casquette de concepteur de jeu pour celle de réalisateur du film, avait beaucoup d'espoir dans ce long métrage pour diversifier les profits de Squaresoft. Malheureusement, l'échec retentissant les poussera à fusionner avec Enix, leur principal concurrent, pour former Square Enix, qui depuis assure le développement et la sortie de Final Fantasy. Mais s'il y a une chose que l'on retrouve dans quasiment tous les FF, c'est évidemment les musiques composées par Nobuo Uematsu, qui participent à la notoriété de la série et à sa cohérence. We'll be right back. Ces arrangements, généralement riches et variés, sont parmi les plus cultes du jeu vidéo, que ce soit le thème de Sephiroth, le boss final de Final Fantasy VII, ou encore l'entêtant thème des chocobos. Ou toujours la très romantique Waltz for the Moon. Si Monsieur Uematsu mériterait à lui tout seul une session d'exploration, je ne peux que saluer son talent de composition. Il est d'ailleurs possible de l'apprécier davantage dans Theatrism Final Bar Line, jeu de rythme compilant plus de 300 titres issus des bandes originales de Final Fantasy et qui est sorti la semaine dernière sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Cependant, avec tout ça, je ne vous ai toujours pas dit pourquoi Final Fantasy reste aussi aimé et que chaque nouvel épisode numéroté est attendu à ce point. Eh bien, c'est peut-être un peu fou à croire, mais c'est bien vrai, Final Fantasy a systématiquement été une licence qui cherche à se renouveler et à innover. Alors, je ne parle pas de petites innovations que l'on peut retrouver entre chaque génération de Pokémon. Non, je parle d'une véritable volonté de sans cesse proposer quelque chose d'inédit pour son public, que ce soit dans ses mécaniques de jeu, ses personnages, ses thèmes, ses directions artistiques, bref, un nouveau FF, ce sont les limites du jeu de rôle japonais qui sont repoussées. D'ailleurs, si les fans accrochent beaucoup à certains épisodes, eh bien Square Enix n'hésite pas à faire des préquels ou des suites à ce dernier. C'est notamment le cas de Final Fantasy X-2, suite directe de Final Fantasy X, ou encore Crisis Core Final Fantasy VII, préquel de FF7. Alors, il est arrivé une fois que Square prépare en prévision d'un succès commercial une série de jeux autour d'un nouveau Final Fantasy. Malheureusement, cette saga, intitulée Fabula Nova Crystallis, qui aurait dû se dérouler dans l'univers de Final Fantasy XIII, sera abandonnée à cause de retours critiques et des ventes mitigées. Un nouvel échec marquant pour la franchise et ses concepteurs et conceptrices, dont je vous reparlerai, j'en suis certain. Bref, comme je le disais, Final Fantasy, c'est innovant, c'est enchanteur, et surtout, c'est une pléthore d'excellents titres qui ne vous laisseront pas indifférents. J'ai en plus eu à peine le temps d'aborder le cas de Final Fantasy 11 et 14, qui sont des MMORPG, soit des jeux de rôle massivement multijoueurs, pour vous dire toute la richesse de cette série. Ainsi, si vous ne connaissez pas les licences, vous pouvez trouver sur quasiment toutes les plateformes les différents titres pour des bouchées de pain, alors n'hésitez pas, lancez-vous. Ou alors, restez bien sages pour voir débarquer Final Fantasy XVI le 22 juin prochain sur PlayStation 5 et 6 mois plus tard sur votre ordinateur.